appropriation culturelle.
Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture de
trois invités, Matt.
On dirait que je savais plus comment commencer ça. Pendant 5 minutes, émission spéciale, encore une fois, pour une deuxième semaine consécutive. On n'a pas encore été coupé des ondes, bravo.
Non, c'est le fun.
Pierre-Marc Langevin.
Ça veut dire que je me suis bien tenu. Ça veut dire que j'étais assez tranquille. Si on passe encore à TV, c'est que j'ai dit des belles affaires, c'est que ça va bien. Salut Mathieu.
Salut Ben.
Salut.
Ben Saint-Pierre. Ben Saint-Pierre. Ouais. En
tout cas, hey, je suis fier de toi, Matt.
Allonge ton nom tout le temps un peu.
Ah ouais, c'est vrai. Je suis fier de toi.
C'est ça.
Mais t'as marché pour venir ici, moi, je suis fier.
Ouais. Bravo. Ouais, mais en confinement, c'est important de profiter. Il fait. Hey, non, mais y a-tu fait beau les derniers jours?
C'est vrai.
Le soleil, la chaleur, la lumière, parce qu'il fait pas beau dans le sud. C'est comme la seule place qui fait beau, puis la seule place qui n'a pas de COVID, c'est ici.
Fait que, le nouveau sud, c'est le nord.
Oui. Puis, ben, deuxième stream, dans le fond, encore une fois, en partenariat avec le Théâtre des Escars et yes. Médiaté Télé. On rencontre, dans le fond, ben, il devait avoir un spectacle ce soir au Théâtre des Escars, Pierre-Marc.
Oui. Mm-hmm. Oui, ce soir, il devait avoir la représentation d'Océane, mais qui n'aura pas lieu, c'est par les Pixels d'Étoiles.
Ah, les productions Pixels d'Étoiles. Et on va rencontrer trois personnes de l'organisation de cette pièce, donc trois créateurs. Et ben, j'avais le goût de vous parler de la pièce, qu'est-ce qu'elle en était, mais comme c'est très complet comme pièce, ben on a choisi de vous la montrer. Donc on va vous montrer la petite bande-annonce là, d'environ 2 minutes, et on va revenir tout de suite après avec les trois créateurs de Océane.
Laissez-vous bercer par la fabuleuse histoire d'Océane, une enfant sourde et muette. Elle aurait tant aimé chanter, mais à tout le moins, elle avait appris à s'exprimer par la danse. Inconsolable, Océane verse des larmes depuis sa naissance, à tel point que ses pleurs menacent d'engloutir le village de Saint-Parlabas. Les habitants avaient tout essayé, mais rien ne semblait la consoler. Océane avait elle aussi cherché et cherché la raison de ses larmes sans jamais trouver ni comprendre.
Aurais-tu par hasard gardé ton premier sourire juste pour moi?
Heureusement, il y avait Ben le Bègue, son seul ami. Océane adorait par-dessus tout quand il lui racontait les histoires de son grand-père à elle, Anatole. Un navigateur qui explorait depuis toujours les mers et les océans à la recherche d'une sirène. Suivez la quête d'une courageuse enfant qui devra découvrir l'extraordinaire caché en elle avant de trouver son propre bonheur.
J'aimerais ça être là, puis je pense que je vais y être. Je vais voler une place à un enfant, je pense, quand le spectacle va arriver. Et ben, sans plus tarder, je vous présente les créateurs, les concepteurs de ce spectacle-là qui sont avec nous. Donc, Alain Lessard, qui est auteur et coproducteur et directeur de scénarisation.
Oui, enchanté, allô!
Ça va bien?
Très bien, vous autres?
Ben oui! On a Joël Proulx-Bouffard, aussi concepteur visuel et directeur technique.
Il est sur mute.
Ah, ça c'est...
Ça paraît-tu que je suis dans les technologies? Bonjour!
Et nous avons Jérôme Roy, comédien, compositeur de la trame sonore.
Allô, gang! Ouais, c'est plus moi qui m'occupe de la musique. Fait quand il y a des problèmes de son, Joël, il est un peu mêlé, là.
Mais tant que l'image roule, tout va bien.
Oui, c'est ça.
Hey, par où commencer après cette bande-annonce? Moi, quand je l'ai vu là, pour la première fois, j'ai fait quel magnifique spectacle. Et ce n'est que 2 minutes. C'est grandiose. C'est tout. C'est l'expérience numérique. C'est l'expérience de jeu. La musique aussi, c'est complet. C'est quoi ce projet-là? Ça sort de où? Qu'est-ce qui vous a amené à créer ce produit-là tellement unique?
Bien, la genèse de tout ça vient d'un livre qui s'appelle « Saint par là-bas » que j'ai écrit en 2012 et qui contient deux histoires, donc l'histoire d'Océane et l'histoire de Du Nord, à partir desquelles, au fil des ans, on a eu plusieurs bons commentaires et plusieurs personnes qui nous disaient « ben oui, ce livre-là est pour adolescents, pour adultes, mais il y a quelque chose dans la magie, dans le merveilleux qui fait très enfant aussi, qui est universel. » Donc, on nous a fortement suggéré d'adapter ces histoires-là pour les jeunes et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a Du Nord avec lequel on roule depuis 5 ans, bientôt 6 ans, et Océane depuis 3 ans. Et quand on a lancé cette aventure-là, c'est important pour moi à la base d'offrir un spectacle le plus complet possible, multisensoriel. Donc, je voulais faire rire, je voulais divertir les jeunes, mais je voulais aussi les toucher, les amener à réfléchir. Et via autant le jeu sur scène, les comédiens, autant au niveau de la musique, Jérôme pourra vous en parler davantage. Au niveau du visuel, je trouvais que d'intégrer les nouvelles technologies, c'est important pour moi. Je voulais pas juste faire du wow pour mettre du wow, mais pour nous offrir une magie différente, mais une magie qui peut nous transporter où on le veut en l'espace d'un clic, hein, finalement. Donc, si on veut être au centre du village, on y est. Mais la seconde suivante, on peut être au bord du lac, en haut d'une falaise, on peut être où on le désire. Donc, ça nous permettait toute cette liberté-là et on voulait offrir cette expérience complète aux jeunes de jeux, de musique, de visuel, de nouvelles technologies, mais aussi d'effets spéciaux parce qu'on a de la neige qui tombe, on a de la fumée au sol, on a plein de ces petits trucs-là. Donc, c'est de là qu'est venue ces histoires-là. Et au-delà de tout ça, ben c'est une mission que je me suis donnée depuis plusieurs années de pouvoir, à ma façon, essayer de changer un peu la vie de certaines personnes. Donc, on aura plein d'histoires à vous raconter, là, c'est sûr, plein d'anecdotes, mais de pouvoir changer ces petites vies-là. Donc, oui, il y a des enfants pour qui ça va relativement bien dans leur vie, mais il y en a d'autres pour qui c'est un petit peu plus difficile. Donc, Du Nord, on s'adresse à ceux qui veulent, pour que les enfants croient en eux, développent leurs rêves, foncent, persévèrent, soient résilients. Tandis qu'avec Océane, l'un des thèmes qu'on aborde, c'est la différence, la beauté dans la différence, le respect de la différence. Donc, on voulait s'en aller dans cette direction-là pour toucher les jeunes, pour les amener à rêver.
Ouais, le personnage d'Océane, d'ailleurs, qui est sourd et muette, comment les enfants réagissent lorsqu'ils découvrent le personnage au départ?
C'est fabuleux. Les jeunes, hein, ils absorbent ce qu'ils voient, ils embarquent dans l'univers du premier coup d'œil. Mais c'est sûr que ce qui est drôle, c'est qu'à la base, quand je commençais à parler aux gens autour de moi, de dire « bon, ben notre deuxième spectacle, ça va être l'histoire d'Océane qui est sourde et muette et son meilleur ami, Ben, est bègue. » Donc, vous imaginez un peu le genre d'interaction, le genre de situation que ça peut provoquer.
Je me souviendrai toujours du jour où tu m'as pitché le projet, Alain, que t'as fait « ouais, c'est ça, fait que là, le prochain spectacle, le personnage principal, elle est sourde et muette, puis c'est ça, la personne qui va aider à ce qu'on la comprenne, ben lui, il bégaye. J'ai comme, OK, t'es sûr que c'est un show de théâtre quand les jeunes vont être capables de comprendre? Mais voilà, avec le visuel puis tout ça, on a réussi à faire passer le message, mais j'avoue qu'au départ, c'était spécial comme explication du projet.
Je pense qu'on s'en va dans une direction différente, mais ce qu'on se rend compte... c'est que, par exemple, les jeunes embarquent beaucoup. Les jeunes aussi, dans les documents pédagogiques qui accompagnent les spectacles pour les préparer à venir voir le show, ben nous, on est en association avec des signes pour parler. Donc, où est-ce que les jeunes peuvent aller voir des petites capsules, des petites vidéos, aussi des dessins pour apprendre déjà certains mots de la langue des signes qui va se retrouver dans le spectacle. Donc, souvent, les jeunes dans la salle comprennent davantage Océane que les autres personnages du village qui la côtoient. Donc, ça amène quelque chose où est-ce que les enfants ont déjà un brin d'avance sur les personnages, comprennent « Ah, mais c'est ça qu'elle veut dire! » Puis là, on les entend crier aux personnages pour leur dire « Mais c'est ça qu'elle dit, c'est facile à comprendre! » Donc, il y a cette magie-là. Mais au-delà de ça, on a aussi, ça fait quelques années, quelques reprises aussi qu'on le vit, mais des enfants qui ont des problèmes d'audition, qui sont malentendants et qui viennent voir le spectacle. Mais si vous voyez le visage de ces enfants-là quand ils découvrent que quelqu'un qui leur ressemble et le personnage, l'héroïne d'un spectacle, ça vaut de l'or, ce visage-là des enfants qui ont soit leur interprète devant eux ou qui ont un casque d'audition qui traduit pour eux le spectacle. Mais c'est fabuleux, ces moments-là qu'on vit avec des jeunes qui, pour la première fois de leur vie, se rendent compte « Wow, je peux être le héros d'une histoire, moi. » Donc, il y a quelque chose là pour nous qui est précieux.
Ah, puis encore là, on en parle beaucoup, justement, de la présence de la diversité à la télévision, au théâtre, puis les personnes vivant avec des handicaps, c'est aussi la diversité, ça fait aussi partie de notre vie, puis il n'y a pas beaucoup. Puis c'est quand même audacieux, si on veut, de mettre le personnage principal de l'avant, parce que, il faut d'abord écrire ce personnage. Comment tu as procédé pour créer le personnage d'une enfant sur des muettes? T'as côtoyé des enfants ou t'as...
Non, c'est une bonne question. C'est un processus qui se fait tout seul, on dirait, chez moi. Je vais partir un peu du premier spectacle du Nord, qui est un enfant qui veut atteindre une étoile, en tenir une dans ses bras. On le suit dans ses mille et une tentatives. Donc, cet enfant-là qui a des rêves plus grands que le monde. Donc, il y a quelque chose là qui... en fait, ce que j'ai toujours voulu, que ce soit par du Nord qui va atteindre les étoiles ou Océane qui est sur des muettes, c'est d'aller chercher ces jeunes-là avec un angle différent, avec un regard différent, puis leur dire, ben regardez, c'est possible pour tout le monde. Et j'aurais de la misère à vous répondre à la question d'où vient le personnage Océane qui est sourd et muette. C'est venu comme ça, c'est venu par ce désir-là que j'ai de trouver des personnages qui sont parfois complètement éclatés, loufoques. Hein? On parle de Jérôme qui joue entre autres Lalouche, le gardien du village, qui est le meilleur gardien au monde parce qu'il louche, hein? Il voit deux endroits en même temps, donc il voit deux hommes à lui tout seul. En fait,
je connais ça. Enfin, un personnage
voilà.
C'est pour moi, c'est pour ça que je vais aller voir le show. Enfin.
Donc, c'est pour ça que j'aime aller chercher des personnages, des personnalités, des traits qui sortent de l'ordinaire. Et on se rend compte souvent dans les histoires de Saint-Père-là-bas que les enfants, c'est eux qui font comprendre bien des choses aux parents qui, eux, la vie les ont amenés à être un peu tout croche, un peu déréglés, un peu bizarres. Mais ces enfants-là vont leur ramener cette magie-là. Et c'est de ce souci-là que j'ai de mettre les enfants de l'avant puis de leur permettre de vivre tous ces rêves-là que me sort ces personnages comme du Nord et Océane.
Puis l'interaction aussi avec Océane qui s'exprime pas qu'avec des mots, commencer sur la scène de jouer avec un personnage avec cette particularité-là.
C'est quand même c'est unique. tu parlais du travail de peut-être collaborer avec des gens qui connaissent le langage des signes ou des gens qui sont sourds et muets. Stéphanie Lessard, la comédienne qui a créé un peu son personnage et qui l'interprète aussi, elle a fait affaire avec différentes personnes sourdes et muettes, avec des personnes qui connaissent le langage des signes pour, okay, de un, s'assurer que les gestes qu'elle faisait, ça avait du sens, que les jeunes pouvaient la comprendre. Mm-hmm. Elle avait remarqué que tout dépendant des régions et des endroits, les signes changent un peu, mais bon, je pense qu'elle a réussi à trouver un genre de langage assez universel. Puis c'est elle qui nous éduquait un peu à savoir, OK, quand je te dis ça, là, ben ça, c'est le grand-père, tu sais. Fait que là, on pouvait suivre son texte. Parce que sinon, les premières répétitions, on la voyait faire tac, 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 puis elle nous regardait avec ses grands yeux en voulant dire, c'est ton tour de dire la réplique. On se dit, OK, mais on se dit, qu'est-ce que tu viens de me dire? Tu me parles de quoi? Ben là, je te parle de l'eau dans le village avec mon grand-père. Tu fais, ah, OK, parfait. Fait que là, il fallait un peu apprendre sa chorégraphie pour savoir où elle était rendue. Puis Stéphanie étant très expressive, payant des extrêmement grands yeux, ben on savait que notre cue pour parler, c'est quand nous regardait en faisant... OK, c'est là mon texte, go. Fait que ça a été une belle expérience. Moi, j'ai malheureusement peu d'interaction avec le personnage sourd et muette. C'est plus Yannick Coderre, l'autre comédien, qui lui joue Ben Lebeg, qui est celui qui vit dans la maison dans laquelle je suis présentement. Et Ben qui bégaye, ben c'est lui qui raconte des histoires à Océane. C'est lui qui est vraiment le lien avec Océane pour l'aider à se faire comprendre. Et heureusement, quand il lui raconte des histoires, ben là, il cesse de bégayer. Mais c'est plus lui qui a travaillé avec Stéphanie justement pour apprendre son texte avec le pas de texte à Stéphanie.
T'as amené le décor, je trouve ça intéressant parce que quand on regarde le preview, on voit l'apport technologique qui est là, qui est vraiment incroyable. C'est tout des images du spectacle, je pense, que vous avez comme arrière-fond.
Oui.
Comment, quand on fait un spectacle pour enfants, qu'est-ce qu'on prend en considération quand on va amener l'élément technologique? C'est quoi comment qu'on bâtit ça dans le fond? Tu sais, qu'est-ce qui fait la cote? Qu'est-ce qui le fait pas?
C'est costaud. C'est une grosse question aussi. C'est beaucoup lié au budget. Parce que faire de la tournée jeunesse, c'est pas du tout les mêmes budgets que de la tournée pour adultes. Fait que là, faut faire, puis là, nous, ce qu'on voulait, c'est offrir au moins la même qualité qu'on offre dans des spectacles, de tous âges ou pour adultes. Fait qu'il a fallu faire beaucoup de tours de passe-passe. Puis des fois, ce n'est que au lieu d'utiliser des fermes de rendu, parce qu'il y a au-dessus de 20 000 heures de rendu sur ce que vous voyez. Là, il y a deux images, là, mais pour les deux spectacles, on est à peu près à ça, 20 000 heures. Est-ce qu'on loue des render farms, on achète des machines, ou on s'organise des mois à l'avance, puis on utilise les machines dans les appartements de tout le monde pour faire des rendus. On est allé vers ça. Fait que, on trouve des moyens qui fait qu'on peut pas... Il faut se débrouiller avec ce qu'on a, et c'est tant mieux. Puis quand on garde en tête que les enfants, c'est comme des adultes, mais une coche plus intelligente, ou du moins que les questions sont tellement pertinentes et à la base, on peut pas faire fi ou abréger ou escamoter. Fait que vous voyez l'image derrière moi, il y a beaucoup de profondeur de champ, il y a du flou. Mm-hmm. Fait que c'est beaucoup un travail de caméra pour s'assurer que le focus de l'œil est sur les comédiens puis sur l'action. Fait que le décor est là, il est enchanteur, il est pour soutenir, il est pour mettre dans le contexte, pardon, mais il doit pas prendre la place et c'est beaucoup par des flous comme on a en ce moment. Fait que votre œil s'en va davantage sur moi parce que derrière c'est plus flou. Fait que c'est en mélangeant toutes les petites techniques comme ça, puis on finit par y arriver. Mais si j'avais pas eu une couple de décennies d'expérience, pas sûr qu'on se serait lancé aussi facilement dans un projet comme ça, parce que chaque projet de pixels d'étoiles, c'est vraiment sauter dans le vide. Heureusement, on a nos parachutes, puis on sait à peu près de la hauteur qu'on saute, mais on contrôle pas toute la chute. Fait que ça prend beaucoup de monde qui sont... chaque cerveau qui se joint à nous est vraiment un apport considérable, puis c'est les compétences de tout le monde qui fait que ça se réalise. Et l'écoute beaucoup de chacune des personnes. Fait que c'est comme ça qu'on contrôle la technologie. On la dompte.
Ouais, puis il y a quelque chose qu'on en a discuté un peu avant le spectacle aussi que vous avez apporté que j'ai trouvé intéressant, c'est que Saint-Barnabas, on peut le visiter aussi techniquement après vos spectacles avec du VR.
Oui, on s'est amusé pour chacun des deux spectacles à faire une petite expérience d'une minute et demie environ. Fait que les jeunes, après le spectacle, ils viennent faire le party avec nous parce qu'au début, ils font une activité, puis à la fin, on fait le party ensemble. Fait que ça leur permet d'aller voir les comédiens, puis de discuter avec eux, prendre des photos. Puis ben, pour la file d'attente, ils ont le VR. Fait que ça trippe, puis c'est là qu'on voit chaque enfant qui a jamais essayé ça, s'il est très réactif, s'il a peur, s'il fait attention. C'est merveilleux, toutes les réactions qu'on a là-dedans. D'ailleurs, ils ont été mis sur Internet il n'y a pas très longtemps. Les deux expériences de réalité virtuelle, fait que s'il y en a qui veulent avec leur iPad, leur téléphone ou des casques de réalité virtuelle, ben c'est possible d'aller les visionner. Ça fait pas longtemps qu'on les a placés.
Où est-ce qu'ils sont sur le site Internet
de Pixel d'Étoile. Exact.
Tu parlais de quand même quelques années d'expérience là, dans ce type de création-là. D'où tu as commencé? D'où tu viens, finalement?
Ouais, on va faire le parcours technique. C'est vrai qu'il est assez long. Je tripais là-dessus. La première fois que j'ai commencé à faire des dessins à l'ordinateur, c'est parce que j'étais passé dans une vente de garage, acheter une vieille dactylo et j'ai commencé à faire des cartes de fête en ASCII. Je dessinais avec une dactylo. Là, j'ai 10 ans. Puis c'est, je sais ce que je veux faire dans la vie.
On peut dessiner avec une dactylo.
Ben, tu sais, tous les hackers ou ceux qui font des dessins avec des lettres, ben moi, c'est ça, en 90, j'avais eu l'idée de faire ça sur une dactylo, puis je m'amusais à donner des cartes de fête avec ça. Puis déjà à 12 ans, j'ai acheté mon premier ordinateur, puis j'avais l'intention de faire des jeux vidéo. Et là où ça a dérogé, c'est quand je suis allé à l'école, je me suis rendu compte que les jeux vidéo puis le cinéma, c'est des secteurs très régis, puis j'étais davantage un artiste visuel. Donc moi, j'aime jouer avec les patentes, la création. Il ne faut pas que je sois dans une structure. Fait que, bon an, mal an, ben, j'ai fait des petites compagnies de simulation visuelle très techniques. Fait que je me suis spécialisé dans être précis. Fait que quand je me suis retrouvé à faire des spectacles à Vegas, à Los Angeles, des projections sur des immeubles, puis des trucs qui... Des très glamour. Des petits projets. Ça m'a permis, tu sais, mon côté technique m'a vraiment propulsé là-dedans. Et après une dizaine d'années, avec toutes les récessions qu'on a eues, là, on parle des années 2010 à peu près, en 2005-2015, fait que c'était pas évident. Vegas a crashé un peu. Puis, puis par la même occasion, avec Alain, un ami commun, on s'est rencontrés. Et puis, sur un projet farfelu en lien avec Saint-Parlabas, on a commencé là. Je me suis rendu compte après le temps que c'est pas le, la satisfaction de faire mon métier passe beaucoup par la reconnaissance. Puis quand c'est des installations à l'autre bout du monde que tu verras jamais rien, qui durent 3 mois, puis tu travailles 1 an et demi là-dessus, versus un projet comme celui-ci que tu peux porter et avoir accès à ta clientèle, voir leurs yeux, leurs expressions, leurs réactions, ça, y a pas de mesure, y a pas de commune mesure entre les deux.
Saint-Parlabas, dans le fond, pour faire un parallèle, c'est un peu l'équivalent de Saint-Élie-de-Caxton dans un monde fictif, c'est ça?
Oui, bien souvent, les gens font le parallèle. On est dans le conte de village, donc on est dans l'absurde, dans l'humour, dans le jeu de mots. On va dans le magique, dans le merveilleux. Je dirais que peut-être la grosse différence entre les contes de Fred Pellerin, bon, lui, c'est sûr que c'est un vrai village, Saint-Élie-de-Caxton. Il a retourné à sa façon différentes histoires qu'il a entendues au fil des ans. Lui va être beaucoup dans l'humour, dans le jeu de mots, tandis que de notre côté, on y va aussi beaucoup, mais on va aller toucher peut-être davantage la fibre dramatique, je dirais. On y va un petit peu plus creux dans cette direction-là. Mais oui, les parallèles se font avec les personnages qui sont tous un peu plus grands que nature, qui ont tous leur petit côté étrange, mais quand on apprend à les connaître, ben on finit par les aimer, puis on s'y retrouve un petit peu. Il y a un écho qui se fait entre ces univers-là et la réalité.
L'avantage, c'est que comme Saint-Parlabas est fictif, ben la merde n'est pas pognée au conseil de ville. peut-être que ça vous inspirera une histoire éventuellement. C'est qui? Y a-t-il un maire? Y a-t-il un conseil de ville? Y a-t-il une organisation?
Il y a un maire à Saint-Parlabas et il est particulier, le maire. Un maire assez, assez gourmand, assez fier de lui, de ses proverbes qui vont souvent dans des drôles de directions. Donc, c'est un maire, assez étrange, assez éclaté, mais même si il est un peu plus grand que nature, très, très gourmand, très rond, il y a quand même le souci de son village et c'est le premier à tout mettre en œuvre pour essayer de replacer les choses. Essayer d'apaiser les chicanes. Donc voilà notre cher maire qui est assez bien entouré aussi.
Mais je pense que
Patnaud puis Obélix.
Est-ce que je comprends?
oui, c'est vrai que le parallèle est intéressant entre les deux.
Puis dans la création de ce village-là, est-ce que il y a eu une étape créative où je vais inventer des personnages, puis je vais les faire interagir entre eux, puis je vais créer des histoires. Puis est-ce que c'est un peu comme ça que ça a été pour toute la création des personnages, puis peut-être la création de futurs personnages?
Oui, quand même. Encore là, je remonte un peu à la première histoire que j'ai écrite, qui est du Nord, où est-ce que je me suis vraiment... quand j'étais petit, je regardais mon plafond, les plafonds en stucco, là, avec des petits pics, puis j'étais couché sur le dos, sur mon lit, puis je regardais mon plafond, puis je voyais, je m'inventais des constellations, je m'inventais des planètes, je peux devenir un astronaute qui voyageait partout dans l'univers. Donc, j'avais déjà cette idée-là qui était en moi d'atteindre les étoiles. Et comme, je ne veux pas embarquer dans les détails, et comme ça a été plus difficile pour moi au primaire et au secondaire à l'école, ben je me réfugiais dans mon imaginaire. C'est ça qui m'a sauvé la vie à quelques reprises. Et ben est naturellement venue l'histoire de ce petit garçon-là qui veut atteindre les étoiles. Donc, le personnage, je dirais que l'univers de Saint-Parlabas complet s'est créé autour de ce personnage-là à la base. Et là, ben, je me suis dit, bon, ben, dans un village, qu'est-ce que ça prend? Ben, ça prend un maire, ça prend un croque-mort, ça prend d'autres enfants, ça prend une vieille commère, ça prend, bon, ben, moi, je voulais qu'il y ait un mur autour du village. Donc, je me suis dit, ça va prendre un gardien. Mais je voulais pas un gardien droit, plate. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il peut avoir d'intéressant? Ben, comme j'en ai parlé il y a quelques minutes, le gardien qui voit deux endroits en même temps. Donc, après ça, je me suis laissé, quand j'avais un peu les personnages, les lieux, le genre de village que je voulais, le genre d'énergie que je voulais, les thèmes que je voulais aborder aussi, ben, à partir de tout ça, là, j'ai fait mes fiches de personnages. Puis je me suis dit, OK, comment je travaille ce personnage-là? Comment je l'amène le plus loin possible pour que tout, pour que ça crée toutes sortes d'interactions, que ce soit au niveau des chicanes, mais que ce soit au niveau de la réconciliation, mais des thèmes de découvrir l'extraordinaire en soi, de la persévérance, de la résilience, tous ces thèmes-là, comment chaque personnage peut incarner différents thèmes. Et après ça, ben, je les mets ensemble dans toutes sortes de situations, comme atteindre son étoile ou comme dans Océane, où est-ce que elle pleure, elle en inonde le village autour d'elle. Ben, il faut faire quelque chose avant que le village soit complètement englouti. Et là, ben, entre toute l'entraide, toute la solidarité, toutes ces thématiques-là, ces sujets-là qui se greffent à l'histoire.
Et tout ça est parti aussi d'un roman de 200 pages qui a été best-seller, je crois, aussi.
Oui, j'ai eu cette chance-là, ce privilège-là d'atteindre le statut de best-seller au Québec avec le livre de Saint-Père là-bas.
C'est pas rien au Québec là, d'être best-seller quand même?
Non, c'est pas rien. Je suis vraiment, vraiment reconnaissant de tout ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de persévérance derrière ça, mais de savoir que mon univers trouve écho chez les gens qui ont le goût d'embarquer dans toutes ces folies-là, que ce soit le livre, mais que ce soit toutes ces déclinaisons pour enfants en spectacle. Il y a quelque chose qui est fabuleux pour moi, et c'est pas pour rien que depuis quelques années, je vis à Saint-Père là-bas, dans ma tête, dans mon cœur, dans mon âme, et je poursuis cette route-là avec un bonheur immense.
Donc, Saint-Père là-bas, finalement, c'est Saint-Georges-de-Beauce, c'est ça?
Est-ce que ça fait... est-ce que tu t'es déjà trompé un petit peu dans ta vie réelle puis dans ta vie virtuelle? Est-ce que tu t'es déjà mélangé où tu disais, oh, je vais aller voir le gardien? Ah, ben non, c'est vrai, je peux pas, ça, c'est un personnage.
Ah oui, mais c'est sûr qu'il y a toujours un peu de ces situations-là où, à un moment donné, la fiction se mélange à la réalité, parce qu'il y a des moments aussi où on voudrait davantage être dans la fiction que dans la réalité.
Y a-t-il une pandémie à Saint-Père là-bas?
Oh non, on est à l'abri de la pandémie à Saint-Père là-bas.
Il y a plein de vaccins.
Je suis curieux. Les productions Pixel d'Étoile ont été créées pour Du Nord et Océane. Ça a été créé spécialement pour cette série de pièces-là?
Oui, c'est ça. On a lancé les productions Pixel d'Étoile, tant l'OBNL que l'incorporation en 2015. Donc vraiment, quand on a lancé l'univers spectacle avec Du Nord en premier lieu, on a créé Pixel d'Étoile. Mais déjà avec Joël, avec Jérôme, on avait déjà des projets ensemble, des projets derrière nous, et on a tout uni ça sous une entité, si on veut, légale, pour nous permettre d'aller encore plus loin. Ça devient un véhicule pour nous pour avancer. Mais oui, c'est à partir de ces spectacles-là qu'on a lancé Pixel.
Est-ce que le livre a été créé dans un but de devenir une pièce de théâtre, ou ça a été une adaptation parce que l'histoire elle se prêtait à ça?
À la base, non, c'était pas destiné à devenir une pièce de théâtre. C'est sûr que j'ai toujours eu ça en moi, de voir mes personnages prendre vie devant mes yeux. Ça a toujours été quelque chose qui m'a interpellé, de me dire oui, c'est beau lire noir sur blanc, mais quand on peut le vivre, quand on peut voir, comme un peu comme Joël le disait tout à l'heure, quand on peut ressentir toute cette énergie-là, comme avec Océane, où est-ce qu'on a 400, 500, 600, 700 enfants à la fois qui rient, qui sont sur le bout de leur chaise dans les moments plus inquiétants. Il y a quelque chose là de profondément magique, et même si le livre n'était pas destiné à ça, il y avait quand même un espoir en moi de me dire, ben, je sais pas quelle forme ça va prendre. Ça va-tu prendre la forme de théâtre pour adultes, de comédie musicale? Finalement, ça a pris la forme de théâtre pour enfants, et ouais, c'est extraordinaire.
Là, c'est le public jeunesse, mais t'aurais pu l'adapter pour les adultes aussi, cette histoire-là. C'était pas nécessairement pour eux. Là. Non.
Les thématiques abordées dans Saint-Père là-bas, oui, on est dans l'universel, on est dans le merveilleux, mais il y a quand même des thématiques qui sont assez sérieuse, assez profonde, assez adolescent et adulte, vraiment. Puis à partir de là, ben c'est sûr que quand on a adapté pour les jeunes, ben veut pas, on a changé, on a coupé certains personnages, on en a inventé d'autres, on a changé un petit peu la fin. Donc on a ajusté différents trucs pour faire l'adaptation pour les jeunes.
Donc, j'imagine que là, vous avez fait le tour de ton premier livre, c'est-à-dire avec Du Nord et Océane, qui va reprendre une fois la pandémie terminée. Qu'est-ce qui va se passer à Saint-Père là-bas ensuite? Est-ce qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent? Qu'est-ce qui se passe pour... Oh! Oh!
Ça...
très fort, très fort.
Ça... ça fourmille d'idées. D'ailleurs, on a un nouveau projet qui est en branle. Je vais laisser la parole un petit peu à Joël aussi pour mieux vous expliquer le côté technologique, mais c'est vraiment un projet de cinéma d'animation interactif. Donc, on repousse encore davantage les limites qui, je pense, on les repousse déjà quand même avec nos deux spectacles, mais on va aller encore plus loin. Puis c'est sûr que le contexte pandémique va se prêter à ça, mais on va quand même pouvoir le présenter en salle. Donc, on cherche un produit qui est doublement versatile et on a décidé d'aller dans cette direction-là d'interactivité via le cinéma d'interaction. Donc, vas-y Joël.
Oui, c'est si excitant. et tant plus de travail et heureusement, parce que ça met le sourire à chaque fois, à chaque semaine, on apprend plein de nouvelles choses avec ce projet qui est une façon, à vrai dire, de créer des marionnettes virtuelles et de redonner aux comédiens la possibilité de jouer avec des marionnettes via l'écran. Physiquement, ça va pouvoir... Les caméras sont plus fixes sur une salle dans une salle. On peut tourner autour d'un objet ou autour d'une personne. On est beaucoup plus libre. Fait qu'il y a toute une expression complètement différente qui est vraiment intéressante, mais aussi celle où est-ce que... Comment donner... aux acteurs des bons outils pour être capable de briser le quatrième mur, d'intervenir puis d'interagir avec les enfants, qu'on y croit, qu'on est assis dans la salle ou sur le web, mais qu'on sait que c'est comme du théâtre, c'est pas pareil d'une fois à l'autre, l'énergie diffère, puis l'énergie est une relation entre le spectateur puis ceux qui jouent. Fait que je dirais que ça, c'est toujours au centre de nos débats puis de nos réflexions, puis la technologie va de soit après, on est capable de mettre de côté ce qui parle pas bien puis ce qui s'adapte. Mais c'est sûr que les outils technologiques qu'on utilise en ce moment, il y a 5-6 mois, ils n'étaient pas là encore. Fait que c'est très récent. On développe des trucs, une synergie de logiciels que d'autres n'ont pas encore développé. Puis, fait qu'on se dépêche. On essaie d'emmener la POC bien loin, là.
C'est ça. C'est là l'avantage que vous êtes en avance déjà. Donc, là, vous gardez votre avance, finalement, là, vous foncez.
Oui, mais tu sais, il ne faut pas trop regarder. Ou quand on regarde derrière, il y a plusieurs personnes là, qui patinent aussi. Puis c'est normal et c'est très bien. Fait que on n'est pas dans un esprit de compétition. D'ailleurs, quand on se retrouve dans les salons là, à côtoyer d'autres compagnies jeunesse, c'est beaucoup plus de l'entraide, puis on se pose des questions, puis on répond à ces questions-là justement, parce que la plupart des compagnies jeunesse qui ont perduré, qu'on rencontre, ils ont 20 ans, 25 ans, 30 ans. Donc, on sait qu'on est jeune, on sait que c'est un travail de longue haleine, faire sa place. Fait qu'on est prêt, on n'est pas pressé. On est pressé à chaque jour d'avancer plus vite, là, mais c'est ça. Sur le long terme, on n'a pas de stress. Puis c'est pas de la compétition très sérieuse. C'est vraiment plus comment on s'accompagne tout le monde là-dedans. Et d'ailleurs, on s'est retrouvé à parler avec d'autres compagnies qui sont très intéressées, qui nous posent des questions. Puis à l'inverse, nous, ça nous permet de voir, vous, quand vous faites de l'interaction avec plusieurs jeunes, qu'est-ce que vous évitez? Qu'est-ce que vous avez appris qu'il ne faut pas faire? Puis souvent, c'est ces questions-là qui nous permettent d'aller plus rapidement précisément au but qu'on veut.
Je suis curieux, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec les enfants?
C'est beaucoup, si on leur laisse trop de place, puis là, je devrais laisser Jérôme répondre qu'est-ce qui arrive quand ils débordent, les enfants?
C'est ça. Il y a un juste milieu, il y a un ballon à trouver avec les enfants, parce que ce qui est magique avec le théâtre jeunesse, c'est qu'ils décident s'ils t'aiment dans les deux premières fractions de seconde où ils te voient. J'exagère, mais à peine. Fait que quand tu arrives sur scène, tout de suite, ils vont savoir, lui, je l'aime. Ah, lui, il est drôle. Ah, lui, il est gros puis bizarre. Ah, lui, il est épeurant. Fait que si au début, tu vas pas les capter, tu vas travailler x10 pour aller les chercher. Alors qu'un public adulte, quand tu rentres sur scène, tout le monde est à zéro. Ils sont comme, présente-moi ton personnage, puis je vais voir si je l'aime, si je le trouve le fun ou si je l'aime, je l'aime pas, si c'est le méchant. Mais les jeunes, ils veulent juste s'identifier, ils veulent embarquer là-dedans. Fait qu'il faut être capable de trouver le bon ratio de je te laisse participer, je te laisse dire des trucs, mais à un moment donné, il faut que tu arrêtes pour qu'on puisse continuer la pièce. Fait qu'il y a, vraiment un ballon à trouver. Puis c'est beaucoup de choses qu'on a testées d'ailleurs avec Du Nord à la base. Puis même avec Océane, comme Océane ne parle pas, on s'est dit, on va laisser les enfants interagir puis essayer de trouver qu'est-ce qu'elles cherchent. cache, mais il y a des bouts dans la pièce qu'on a fait, OK, ça devient trop, parce que là, ils se donnent le droit d'interagir n'importe quand, un peu partout dans la pièce. Puis là, ça devient trop cacophonique, on peut pas y arriver. Donc là, on a délimité des endroits très précis où on fait, OK, maintenant, on se retourne vers eux pour faire, qu'est-ce que tu penses que c'est? Ah, est-ce que c'est ça, Céane? Non, OK, as-tu une deuxième idée? Oui, OK, puis après ça, c'est fini, on passe à autre chose. Fait que c'est ça. C'est vraiment toujours de trouver le balance pour être capable de garder leur attention, de les faire participer, mais de pas l'échapper.
Oui, parce que ça doit être dur aussi de ramener un heckler qui est un enfant. T'sais, un adulte, tu peux être plus direct, mais qu'un enfant, ça passe moins bien.
Oui, c'est ça. C'est un peu plus rough. C'est ça. Heureusement, souvent, on a des enseignants et des enseignantes qui sont là quand c'est les représentations scolaires. Fait que là, eux vont pouvoir aider s'il y a débordement. Puis quand c'est avec les parents, en général, il n'y a pas de problème parce que papa, maman est là avec le petit. Fait que s'ils parlent trop, ils vont être comme... Fait qu'on s'en sort bien pour ça.
Il y a toujours le fameux truc, le tchut, 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 tchut.
Ouais.
Fermer les lumières, flasher les lumières de toute la salle au complet.
Ouais, mais là, Jean-Marc Parent débarquerait dans nos spectacles. On sait pas trop si on va jouer.
Avec ses motos.
Oui, c'est
avec
ça.
Son prénom, détruit le décor. C'est ça l'étude pour parler là-bas.
C'est sérieux, je suis curieux de savoir, tantôt parler du cinéma interactif, puis où les comédiens vont manipuler leurs marionnettes, mais le spectateur va-t-il avoir une liberté de mouvement aussi dans ce décor-là, ou ben c'est seulement les comédiens?
On regarde plusieurs types d'interactions, puis c'est sûr que les interactions existent au théâtre depuis toujours, là, si ce n'est que de faire bouiller. Juste avec ça, on peut déterminer un langage, mais c'est de les emmener tout au long de la pièce à voir de quelle façon le comédien au début interagit, peut parler avec. Et ça va naturellement, si on le fait bien, faire que les différentes interactions vont être comprises. Mais des fois, ça donne on a besoin d'indices. Fait que s'il faut choisir entre deux personnages, on peut créer une compétition dans la salle, puis dire, on fait apparaître un premier personnage, son visage, puis une jauge de bruit, par exemple. Fait que c'est-tu lui qui va participer ou c'est l'autre? Fait que le crier à la bonne personne, puis fait que c'est tout un langage qu'on établit. Dans l'interaction, d'avoir fait ça beaucoup, comme je disais, pour des installations dans des casinos, tu peux pas prendre pour acquis que le monde va comprendre. Donc, il va falloir travailler les interactions encore avec les premières représentations et on va commencer même avant à tester des trucs. Puis, donc, il faut être complètement ouvert, puis il faut voir c'est quoi le dénominateur commun qui fait qu'à peu près tout le monde réagit de la même façon pour pouvoir jouer avec eux. On aurait la possibilité de faire monter quelqu'un sur scène à côté, puis qu'il soit capté, puis par ses mouvements qui créent des éléments. Mais là, sur 400 personnes, c'est toujours une qui est choisie. C'est un temps pour monter, pour descendre. Fait que dans ces moments-là, on aime plus faire des expériences comme la réalité virtuelle pour pas que tu aies 399 personnes qui en vivent une. T'sais.
En même temps, 400 limite... personnes, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu ça dans une salle?
Ouais. Ben, est-ce qu'on joue plus avec les enseignants dans ce temps-là? Parce que quand tu as besoin d'une personne, tu peux, tu sais, monter les jeunes pour rendre ça rigolo. C'est tout le monde qui est dans la salle va pouvoir être victime d'un bon coup.
Et là, du cinéma d'interaction, donc ça se diffuse dans une salle de spectacle conventionnelle ou dans un cinéma ou à la télé ou...
Chez vous?
Sur Internet, à la maison, hein, c'est ça?
C'est toutes des bonnes réponses.
OK. c'est quoi votre plan? Avez-vous un plan d'attaque ou vous voulez garder les salles conventionnelles?
Parce que
c'est oui, pas la même chose, j'imagine, c'est pas la même...
Les salles conventionnelles, ça fait partie de toute la genèse des spectacles chez Pixel. Fait que c'est sûr qu'on veut rentrer là-dedans. On a nos réseaux, on a les diffuseurs qui nous aiment, qu'on aime beaucoup. Fait que ce travail-là, faut pas le perdre. Et d'ailleurs, c'est un produit qui va diversifier leur offre, qui va leur donner, je pense, des belles possibilités. Et c'est sûr que la deuxième option, c'est via le web, en diffusion. Que ce soit par du scolaire ou tout le monde à la maison en grand public, c'est ouvert à tout. On est en train de travailler ça plus en détail. Mais ça va exister partout.
Je vais essayer ça à Guzzo, il n'y aura pas une couple de pièces pour ça, j'imagine.
Il a financé Papa Lutin, il peut bien financer
ça. C'est ça.
Par même temps, au prix du popcorn, ils peuvent sûrement financer ça.
Sinon, on n'a pas parlé beaucoup, là, mais Jérôme, c'est toi qui fais la composition musicale des pièces. Oui. Comment t'approches ça? Comment qu'on approche la jeunesse en musique? Écoute, on amène une vie, un spectacle comme ça avec de la musique?
Ouais, ben j'ai eu la chance qu'Alain m'offre de faire la musique en disant, écoute, fais ce que tu veux. Fait que en partant, j'avais il a vraiment dit écoute, fais ce que tu veux, vas-y. Je fais comme OK, je peux te faire, je venais de finir mes études en musique orchestrale, en compo. Puis okay. J'ai dit mais je peux te faire du orchestral. Il fait oh oui, vas-y, go, présente-moi quelque chose. Puis je suis bien ouvert. J'étais comme oh, OK. Fait que pour du Nord, j'ai commencé en essayant de j'aimais bien mettre un instrument par personnage, puis que les instruments aient une relation avec les personnages. Donc, exemple, la mort, qui est comme le personnage le plus vieux, ben son thème est au clavecin, tu sais, parce que c'est comme un vieil instrument antique. Ensuite, le personnage qui fait réveiller du Nord, qui comme un peu son amoureuse, ben c'est le piano, qui est un peu comme le dérivé du clavecin, mais plus moderne. Puis quand on monte dans les registres, le Celesta, on peut penser là au petit truc qui sonne comme des cloches dans Harry Potter, là.
Oui, oui, oui.
Donc, cet instrument-là, c'est l'instrument de Dunard parce que lui, il tripe sur les étoiles et tout ça. Donc, j'ai pris un instrument qui était plus haut pour aller chercher ce timbre-là. Fait qu'à partir de ça, j'ai créé mes thèmes. Je me suis assuré que chacun des thèmes pouvait être entrelacé parce que dans Dunard, ben, la mort est toujours présente. Il y a Dunard avec ses rêves. Il y a Cassiopée qui est là aussi. Fait que pour Dunard, je suis vraiment allé avec un procédé d'instrument et de faire lier les thèmes. Pour Océane, ben, j'ai décidé d'y aller plus avec... J'ai gardé encore l'instrument pour Océane, mais je suis plus parti du fait que ce qui aide beaucoup Océane dans l'histoire, qui est un peu un point tournant, c'est sa boîte à musique. Et les boîtes à musique, c'est toujours des valses qui jouent là-dedans. Fait que je suis parti du temps d'une valse, de ce qu'on appelle un temps ternaire. Donc, le poum, pap, pap, poum, pap, pap. Puis je suis parti de ça pour faire toutes les autres chansons pour qu'on reste dans l'univers de la valse, vu que c'était ça le point tournant. Puis autour de ça, ben encore une fois, je crée mes mélodies pour que tout puisse s'enchaîner parce que tous les personnages finissent par se rencontrer puis avoir un lien et un impact sur les autres personnages. Fait que je m'assure que tout ça peut arriver ensemble à la fin. Fait que j'aime bien ça, unir tous les thèmes à la fin puis que ça fasse une explosion grandiose pour la finale. Puis ce qui est le fun, encore une fois, c'est ça, c'est qu'Alain m'a vraiment donné carte blanche en disant « Fais ce que tu veux! »
Je suis curieux, c'est un côté un petit peu plus geek, là, mais j'imagine que tu n'as pas un orchestre dans ton garage, tu travailles avec... c'est quoi les outils que tu utilises pour faire tes compositions?
Je prends Logic, si tu veux tomber très, très, très technique, mais j'ai beaucoup de banques de sons, le fait que je prends différentes banques de sons, tu sais, violon, brass, etc. J'ai fait mes recherches, j'ai testé des trucs justement pendant mes études en musique. Puis là, j'ai vraiment mes banques établies, mes go-to, là, que je sais que pour mes violons, je vais prendre une telle librairie de son, puis après ça, pour les brass, je vais prendre tel autre. J'ai mes templates qui sont là, donc quand j'ouvre mes sessions, tous mes instruments de l'orchestre sont là en ligne, puis je peux utiliser ce que je veux pour composer, fait que j'ai pas à faire de recherche d'instruments en faisant, bon, OK, ouais, je mets-tu un xylophone, je vais aller le loader, il est dans quelle banque déjà? Non, non.
Ouais.
J'ai mes 150 instruments qui sont là, puis je vais composer avec ce que je veux en ligne, là, directement dedans.
Il dit ça, là, 150 instruments, puis ça a l'air facile.
On s'habitue. T'sais. Ultimement, ça a l'air plus complexe que ça l'est souvent, parce que quand on entend des trucs orchestrales, c'est sûr que justement, tu sais, 30-40 instruments différents qui vont jouer, mais souvent, ça peut être juste un accord de do à trois notes différentes qui est juste relayé sur tout l'orchestre. Ça devient un job d'orchestrer pour que tout sonne bien, mais tu sais, c'est quand même moins complexe que ce qu'on peut penser là, au final.
Donc, t'as littéralement un job de Yannick des essais games, mais pour virtuel.
Ouais, c'est ça. chez nous du seul, fait que les musiciens, j'ai pas à les payer trop cher.
Ils sont tous tunés.
Ils sont tous tunés tout le temps.
C'est ce que j'allais dire. Jérôme est très, très humble en ce moment, mais tu sais, on a le rêve quand même, puis sa musique à Jérôme est tellement complète, est tellement belle, est tellement complexe, est tellement riche qu'on a le rêve de pouvoir présenter et du Nord et Océane avec un véritable orchestre dans une fosse qui joue la musique. Hein? Donc, on a cet espoir-là, cette envie-là depuis quelques années et je pense que Jérôme aimerait bien être le petit chef en avant, mais il y a quelque chose que...
Je délaisserais mon rôle de du Nord pour aller faire le chef d'orchestre.
As-tu déjà dirigé un orchestre? Ou
J'en ai fait un peu de direction, mais tu sais, honnêtement, je sais pas si je pourrais vraiment bien diriger un orchestre complet. J'ai fait de la direction pour comme des 12-15 musiciens pour certains projets à l'université, des trucs comme ça, mais de dire que je serais capable de vraiment diriger l'orchestre, je sais pas. Faudrait que je me fasse coacher. Je connais les pièces par cœur, fait que c'est sûr que j'aurais pas besoin d'étudier la pièce longtemps pour savoir que, la section devant va commencer à jouer, je vais leur faire le cue que dans deux mesures, ils commencent. Mais c'est ça. Ultimement, probablement qu'un vrai chef d'orchestre ferait un meilleur travail que moi. Mais pour le le trip de l'essayer, je pense que je me permettrais de le faire pour le tester.
Juste pour avoir vraiment une version comme adulte de la pièce Océane de Musical.
Oui.
Musical, où on fait un ballet dans un an, ça serait vraiment intéressant.
Ah, si vous saviez à quel point on a toutes ces idées-là déjà, puis on, on rêve, on fantasme là-dessus, mais tu sais, au niveau musical, ça vous donne une idée à quel point la musique de Jérôme a de la profondeur pour qu'on puisse sans problème penser qu'on peut avoir un orchestre complet devant nous qui va jouer la musique. Donc, il y a quelque chose de fabuleux quand les gens viennent voir le spectacle. Ben, la trame est là, la trame les accompagne, la trame rehausse toutes les émotions, que ce soit du drame, de l'absurde, que ce soit de l'inquiétant. Donc, il y a vraiment un travail. Autant, là, je lance des fleurs à Jérôme, là, mais Joël, c'est la même chose. C'est tout est là, tout est riche, tout est complet. Donc, j'ai cette chance-là, moi, incroyable d'avoir une équipe fabuleuse autour de moi qui font en sorte que mes histoires sont tellement plus incroyables que ce que j'écris. Donc, c'est merveilleux.
C'est ça qui est magique, qu'on arrive à faire de l'aussi belle musique et des aussi belles images sur un texte si faible.
Voilà. Ça, c'est
C'est notre... c'est un peu notre running gag parce que Alain vraiment pour faire un... parce que tout ce qu'on crée part de son univers à lui, tu sais, justement notre musique puis nos créations visuelles puis ce qu'on interprète aussi comme comédien, tu sais, ça n'existerait pas si c'était pas d'Alain et de l'univers que lui a créé. Nous on joue dans ce terrain de jeu là que lui nous a amené, mais ultimement tu sais ça part tout de lui, fait qu'on aime bien ça l'agacer là, mais il a quand même créé un village en soi qui est fonctionnel. Tu sais, on parlait des différents personnages, mais si tu prends Saint-Par là-bas puis tu crées ce village-là pour vrai, tout est là pour que le village soit fonctionnel. Bizarre, mais fonctionnel.
Couche-tard.
Après, est-ce qu'il appellerait ça différemment? Mais je suis sûr qu'il y a un équivalent de couche-tard. Puis tout est un peu intemporel aussi à Saint-Par là-bas. T'sais, on ne sait pas vraiment si on a des téléphones, des cellulaires, des TV. On ne le sait pas trop. T'sais. On voit qu'ils ont des bains, ils ont probablement une petite boulangerie, des trucs comme ça. Mais on ne sait pas trop dans quel temps ça se situe.
OK. Ça, c'est le mystère, c'est de
ça garde une liberté aussi.
Voilà, exactement.
Si les personnages textaient à tout bout de champ, ça serait peut-être moyen.
Oui, c'est sûr.
Je vais partir de là.
Je pense que c'est une bonne image quand on regarde justement derrière moi l'atelier de Ben. T'sais, on voit qu'il y a des trucs, c'est des engrenages, une genre de vieille ampoule, mais on pourrait pas dire ah, OK, ça, c'est à peu près dans les années 60. Non, on sait pas. C'est un peu intemporel.
Clairement, c'est pas des LED, en tout cas.
Non, c'est ça.
Clairement, c'est pas des LED.
C'est quoi tes inspirations, Alain? D'où.
Mes inspirations pour écrire mes histoires et tout ça.
T'es un gars de science-fiction ou...
Je suis un gars d'émotion, je dirais. Je pense que dans la mini-week de l'équipe, je pense que je suis le côté blé entier, là. Donc, tu sais, c'est ce côté-là vraiment qui essaie d'aller chercher les émotions. Tu sais, j'ai un bagage, une formation universitaire en psychologie. Donc, c'est sûr que la nature humaine, tant dans ses tourments que dans ses espoirs, il y a quelque chose qui me passionne, qui vient me chercher. Mais l'inspiration, ben, je donne des conférences, là, entre autres, à l'année, dans primaire, secondaire, cégep, et c'est quelque chose que j'amène. T'sais, moi, c'est né de l'intimidation que j'ai vécue au primaire et au secondaire, et je me réfugiais dans ma tête. C'est là que je trouvais toute la liberté, tous les possibles que je voulais, parce qu'à un moment donné, je voulais même plus vivre ma vie, je souhaitais juste vivre la vie des autres, parce que je la trouvais donc plus intéressante. Donc, ça a été mon refuge. Et un peu comme je le disais au début, tu sais, quand j'ai commencé, quand j'écris du Nord, quand j'ai écrit Océane, je me disais, tu sais, quand moi je me faisais tabasser à l'école, au primaire, au secondaire, ben qu'est-ce qui m'aurait fait du bien? Qu'est-ce que j'aurais aimé aller voir comme show qui m'aurait réconforté un peu, qui m'aurait donné une petite étincelle d'espoir? Ben du Nord, Océane. Donc, toutes mes histoires partent un peu de là, d'émotions négatives, de comment on peut faire pousser une fleur dans le ciment, dans une cicatrice. Toutes ces images-là, c'est de là que ça vient. Donc, moi, mon ADN est vraiment de prendre des situations qui sont difficiles, mais de faire naître de la magie là-dedans, de faire naître du beau, de faire naître des horizons qui sont pas seulement nos pieds, mais qui sont droit devant nous, la tête haute, les épaules droites. Donc, c'est vraiment... parce que si quiconque lit mes livres, que ce soit Saint-Par-là-bas, mes premiers romans, il y a rarement beaucoup de descriptions physiques dans ce que j'écris. C'est beaucoup, beaucoup dans le ressenti des personnages et des situations. Donc, c'est vraiment là que je puise mes différentes inspirations.
Sinon, ça avait l'air d'avoir une belle complicité entre vous. La gang en tournée, comment ça se passe? De quoi ça a l'air?
C'est magique.
Ça doit, hein?
Ben, c'est sûr qu'au départ, c'était quand même particulier parce que quand le projet a commencé, on n'avait pas de subvention, on n'avait pas vraiment de budget. Alain, lui, était à Saint-Georges. Les comédiens, on était tous à Montréal. Fait qu'on se donnait des points de rendez-vous un peu partout. Souvent, on allait répéter à Québec. Fait que les trois comédiens, on a appris à se connaître encore plus dans les voyages, dans la voiture. D'ailleurs, il y a plusieurs idées qui sont présentement utilisées dans les spectacles qui sont nées pendant qu'on était dans l'auto en train de dire « Hey, ce serait drôle de faire telle affaire. On va l'essayer à répète. » Donc, tout ça s'est construit beaucoup en voiture. Puis ensuite, pour les tournées, ben, pour avoir fait de la tournée un petit peu partout, on est allé au Nouveau-Brunswick, en Ontario, un peu partout au Québec. On aime bien ça, se faire des soupers en gang. On est quoi, 6-7, tout dépendant des tournées là, qui nous suit. Mais on aime bien ça, justement, se faire des mises à jour, avoir les soupers en gang, puis être le plus possible ensemble. Pour avoir fait de la tournée avec différents projets, c'est pas toujours comme ça. Souvent, on fait le spectacle, puis c'est punch-in, punch-out. On s'en va dans nos chambres, puis ce sera ça, tu sais. Et là, c'est vraiment magique qu'on puisse être tous ensemble, puis avoir une belle gang. Puis tout le monde est très ouvert aussi aux opinions de chacun, même quand c'est pas dans son domaine. T'sais, exemple, si on a quelque chose à ajouter à Joël, dire « Ah, tu pensais pour le visuel à ça? » De la même façon que Joël va souvent nous dire « Hey, vous pensez sur scène de faire tel truc? » Tout le monde reste ouvert à... est-ce que les autres nous peuvent nous proposer? Puis comme ça, changer le projet peut grandir. Oui, bien ça, changer le texte, ça, je m'en occupe. Alain me donne un texte, puis je finis tout le temps par le changer un peu. Je paraphrase beaucoup, ça, c'est mon défaut.
Ça te dérange pas, toi, que les comédiens s'amusent avec le texte, Alain?
Ah non, moi j'adore ça. Je suis pas du type virgule et point près, au contraire. Puis je détiens pas la vérité infuse. Donc, quand les comédiens ou la metteur en scène me propose quelque chose en disant, ben, si on retourne ça de bord, cette phrase-là, je pense que verbalement, c'est bien beau de façon littéraire, mais verbalement, il me semble que ça va puncher plus. Donc, encore là, comme Jérôme le disait, j'ai tendance à laisser beaucoup carte blanche. J'ai laissé carte blanche à Joël, à Jérôme, à la metteur en scène, à tout le monde. Tu sais, c'est important pour moi de laisser cette liberté-là pour voir jusqu'où mes idées peuvent aller dans toutes sortes de directions, puis on le voit en show. À chaque fois qu'on est en coulisses, bon, des fois, Jérôme revient, puis « Ouais, j'ai testé ça. Parfait, ça marche. » D'autres fois, c'est « Ben, on le refera peut-être pas. » Donc, on a un peu de tout ça, mais j'aime cette liberté-là, puis je trouve ça important. Vous parliez de chimie. La chimie est là au sein de l'équipe. Je pense que ça transpire sur scène. Il y a quelque chose qui va là, que les gens ressentent dans la salle, que c'est pas juste, ils sentent pas les comédiens qui jouent des personnages, ils sentent que c'est là, que c'est vrai. Donc, je pense que cette liberté-là que j'accorde amène ça aussi de beaux brins, de beaux élans qui, 9 fois sur 10, nous amènent une magie supplémentaire. Puis on fait, hey, wow, mais c'est génial, on garde ça pour les prochains shows. C'est important pour moi.
Est-ce que c'est la même équipe de comédiens pour les deux spectacles?
Oui, c'est les mêmes comédiens dans chaque show. On a 7 personnages qui sont joués par 3 comédiens, puis les 2 shows, c'est les 3 mêmes comédiens qui jouent. Ouais.
Et même dans Du Nord et Océane, les personnages du village reviennent, donc ils font un peu le pont entre les 2 histoires. Parce que Du Nord, lui, une fois que son histoire est terminée, on le revoit plus dans Océane. Même chose pour Cassiopée, qui est son ami et ultimement peut-être amoureuse. Verra-t-on. Et dans Océane, c'est ça, l'Océane est comme un nouveau personnage qui est introduit là-dedans. Mais les 3 personnages du village, c'est-à-dire le maire, la commère et la louche, qui est le gardien du village, ces 3-là, eux, reviennent. Fait que les jeunes qui ont déjà vu Du Nord, quand ils arrivent dans Océane, on commence avec une scène du village. Donc, ils peuvent faire « Ah oui, OK, c'est les personnages que je connais déjà. » Donc, c'est un peu comme, pour faire un parallèle avec Harry Potter, si on veut. Là, c'est un peu comme le trio qui revient d'une fois à l'autre pour que les gens puissent s'identifier dans les différents spectacles.
Donc là, ce que je comprends, c'est qu'il y a trois comédiens, dont deux comédiens ont eu leur histoire comme figure de proue, comme rôle titre. Est-ce qu'il y a une troisième série qui s'en vient pour mettre le troisième comédien de l'avant aussi? Ou...
Sait-on jamais?
Quoi qu'en même temps, excuse-moi Alain, mais même si, exemple, Dunard est le personnage principal de l'histoire de Dunard et Océane d'Océane, je pense qu'il y a quand même un bon... On divise bien le temps de scène entre les différents personnages, tu sais, donc surtout pour Océane qui c'est le rôle principal, mais sourde et muette, fait qu'il y a quand même beaucoup de choses qui tournent autour de Ben, qui est un peu son traducteur et celui qui permet de faire le contact avec le public. C'est ça, ça se trouve être un peu un spectacle qui est divisé avec ces deux-là. Puis même pour Dunard, tu sais, je pense que le village prend autant de place, sinon plus que que Dunard lui-même.
J'allais dire, c'est que quand on demande aux jeunes puis aux adultes, c'était qui leur personnage préféré, il y a même pas 20% qui va dire que c'est le protagoniste de l'histoire, que c'est Dunard ou Océane.
Ah ouais, okay.
C'est vraiment diversifié. Et je pense qu'il y a quelque chose dans le village de Parlabas, qu'il n'y a pas de héros principal. Tout le monde a vraiment sa place, sa synergie, sa manière d'être, ce qui fait que le monde, quand ils viennent nous voir, ben, ils ont vraiment un coup de cœur pour tel ou tel personnage. Et souvent, le personnage qu'eux préfèrent n'est pas du tout en lien avec le profil de ce qu'ils sont, ces gens-là. Fait que c'est super le fun.
Oh oui, vraiment, c'est ça. C'est très bien partagé. Puisqu'on remplit des demandes de subvention ou est-ce qu'ils nous demandent le comédien principal? On n'a aucune idée à chaque fois quoi répondre parce que les trois...
Guinadon. Guinadon. Mais Guinadon.
Voilà. Voilà. C'est que les trois sont tellement importants qui jouent les sept personnages en plus. Donc, si vous voyez les changements de costumes en coulisses, moi, je suis là pendant les shows puis c'est quelque chose à voir. Donc, mais les trois comédiens, que ce soit Yannick, Jérôme, Stéphanie, font un travail vraiment équivalent et remarquable. Il y a personne qui est mis de l'avant. Oui, le nom sur l'affiche, là, mais au niveau dans l'histoire, tous les personnages ont leur place et tous les comédiens ont leur place.
Donc là, tu viens de dire que tu es souvent dans les coulisses pendant les spectacles. Est-ce qu'il est plus dans vos jambes ou...
Non, là, ça prend une répète pour qu'ils voient « OK, je peux pas être là », tu sais, parce que souvent, il y a un couloir, il y a même des salles où il y a juste une coulisse, fait qu'il faut tout faire les entrées-sorties d'un seul côté. Fait que là, Alain, souvent, on le voit d'un rideau écrasé dans le fond, puis il est comme « Si je dérange pas », on est comme « Non, non ». Surtout pour Océane, qui a des changements encore plus serrés. Oui. Dans Dunard, moi, j'ai la chance d'être dans le milieu de la scène, il y a un petit meuble, puis moi, je me change en dessous de ce meuble-là sur la scène. Fait que j'ai tout le temps que, ben, pas tout le temps que je veux, mais j'ai plus d'espace et de temps que quand on est les trois derrière scène. Et dans Océane, en plus, j'ai un mode bateau, littéralement, qu'il faut que je sorte. Fait qu'il faut comme trouver une configuration pour que je le sorte sans accrocher à l'un ou sans l'empaler. Donc, ça fait des belles chorégraphies derrière. Je pense qu'éventuellement, il faudra avoir des caméras pour montrer le show behind the scenes.
Ah oui. C'est fabuleux. Puis oui, mais ça, moi, en coulisses, j'essaie d'aider du mieux que je le peux dans ces courses folles-là. Mais tu sais, j'ai mes cues de glace sèche, j'ai mes cues de neige qui tombe. Donc, tu sais, je suis actif, mais je suis comme Jérôme l'a dit, moi, je suis écrasé dans un rideau dans un coin. Je regarde le ballet aller, puis c'est magique.
Et Joël, toi, de ce côté-là, toi, tu fais...
Ben moi, ça va bien, je suis à la console. Ouais, oui, exact. Mais ce qui est rigolo, c'est que j'ai beau être derrière la console, c'est moi qui prends le plus de place derrière la scène.
OK, ben oui,
projection,
c'est vrai.
Puis les projecteurs, puis entre les deux, il y a 16 pieds où personne n'a le droit de passer, ni les comédiens, ni Alain, ou quoi que ce soit. Fait que c'est moi qui prends toute la place.
Je pense que tu parles d'écran, puis de grandiose, de côté grandiose, mais c'est plate encore plus. Une autre raison d'être déçu qu'il n'y ait pas le show ce soir, parce qu'au Théâtre des Escaires, particulièrement, je pense qu'il y aurait vraiment eu... ça a été vraiment une belle salle pour présenter ce show-là, parce que les plafonds, c'est majestueux. L'acoustique aussi a quand même quelque chose de particulier au Théâtre des Escaires à Amos, que pas toutes les salles ont la chance d'avoir. Là.
Les coulisses sont grandes.
Quand est-ce que vous allez venir? Là? On veut voir ça. Là. Quand est-ce que vous venez?
Aussitôt qu'on peut.
On est prêts. Ouais,
je vais appeler Legault, je vais regarder ce qu'il va dire.
Le 26 février, techniquement, les salles vont pouvoir ouvrir si ça va bien, si les gens font leur effort, qu'on continue de poursuivre leur effort.
Bon, ben, bouconsole 27.
Parce que Rachel... le spectacle n'a pas été annulé, il est juste reporté, c'est ce qui va arriver, j'imagine.
Ouais. Oui, c'est ça, il est reporté. Ben, comme on espère, d'ici la fin de l'année scolaire, si tout va bien, pouvoir faire notre belle tournée en Abitibi. Donc, reste à voir, mais nous, de notre côté, on est prêts puis on a tellement hâte d'aller, d'aller vous voir.
D'ailleurs, on en a parlé un petit peu la semaine dernière avec Marc-André Thibault, mais cette reprise-là, justement, le fait que, évidemment, il va y avoir une demande, mais le manque d'infrastructures, le manque de salles pour accueillir les spectacles, ça vous fait, est-ce que ça vous fait peur, ça, de votre côté? De dire, à un moment donné, tout le monde va vouloir se rebooker, puis ça rentrera pas dans l'horaire. Vous commencez à y penser. Je vais donner des dates rapidement.
Ouais, ben oui, il y a tout ça, puis tout le monde essaie de voir ensemble, tout le monde est dans le même bateau, mais là où est-ce que le théâtre jeunesse déroge un petit peu, ben ça se passe beaucoup dans le scolaire, durant la journée. Fait qu'on peut faire des montages le matin, puis présenter le show l'après-midi, puis redémonter le soir. Fait qu'on arrive à se placer entre des shows de soirée, d'humoristes, de musique. On peut aussi. Fait que je pense que ça donne un peu de jeu, mais c'est sûr que tout le monde va se battre. C'est pas nécessairement les spectacles qui se battent, mais c'est les diffuseurs, c'est quoi le temps qu'ils ont, puis les bookers et tout. Fait que c'est toute cette synergie-là. Je pense que ça va quand même bien se faire parce que tout le monde a hâte de retourner en salle, puis tout le monde a le même target.
À l'UTP, on est chanceux, ça n'a pas arrêté trop longtemps. On a eu la chance d'avoir des spectacles cet automne, mais distancé, puis c'est pas pareil, c'est pas la même énergie, mais le meilleur s'en vient. C'est mieux que rien, puis le meilleur s'en vient, je pense.
Ouais.
Sinon, on va peut-être une petite plug. On vous suit sur les réseaux sociaux, on vous suit sur Internet, site web.
Oui, ben il y a le site web de la compagnie, pixeldetoile.com, où est-ce que vous avez tous les renseignements, les vidéos, les documents de présentation, toute l'information nécessaire pour nos spectacles du Nord.
Les trousses pédagogiques aussi.
Les trousses pédagogiques, tout est là. Il y a une boutique en ligne si les gens sont intéressés à voir les livres, les chandails.
C'est important pour nos artistes.
Les histoires audio que Jérôme a fait. Donc, tout est là. Sinon, sur Facebook, vous pouvez nous suivre sur notre page Saint-Par-là-bas. Donc, voilà, Saint-Par-là-bas.
Par là-bas, à sa page Facebook officielle.
Sa page Facebook.
Qui est l'agent de com?
Et donc, on a tous les quand on est en tournée, ben on fait toujours tirer des forfaits familiaux sur notre page. Quand on fait des lectures virtuelles, tout est là. Donc, les gens qui veulent nous suivre en direct, savoir où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, les nouveautés, la page Facebook est parfaite pour nous suivre.
Super. Sinon, êtes-vous sur TikTok? C'est même populaire auprès des gens. Non. Commencer à faire des danses, quelque chose, non?
Oui.
Faudrait s'y mettre.
Ça va être le prochain défi pour la fin 2020.
Ouais, prendre une couple de selfies pour Instagram aussi, là, sur scène, des trucs comme ça. On va développer les médias sociaux de Saint-Par-là-bas, mais on ne sait pas si on a là-bas, Saint-Par-là-bas, des médias sociaux.
C'est ça, c'est pas clair. Il y a une page Facebook, mais.
Ouais, c'est ça.
C'est ça.
Excellent. Ouais. Ah, merci beaucoup, les gars.
Ben, merci à vous autres.
Merci à vous.
Tout ce temps, c'est vraiment le fun. C'est pas le spectacle, mais c'est l'envers du décor. Puis c'est le fun d'avoir un peu le portrait des créateurs, puis les créateurs aussi qu'on voit pas non plus sur la scène. Donc, merci d'avoir pris ce temps-là.
Et oubliez pas de venir nous voir backstage quand vous allez venir voir le spectacle, quand on aura la chance de le faire.
On a une invitation backstage?
Hein, oui, voyons donc.
C'est sûr.
Ah, on a une invitation backstage. Brag! C'est ça va être là. Ça va éviter en plus de voler une place à un enfant si on peut rentrer backstage. Ça va mieux paraître, c'est plus acceptable socialement. Ah, merci beaucoup les gars d'avoir été là. Puis, on va souhaiter une reprise le plus rapidement possible. On a hâte de voir ça, de voir cette installation-là. Ça va, je suis vraiment curieux. Puis merci Benoît.
Merci Mathieu.
Merci Pierre-Marc.
Merci Mathieu.
Merci au Théâtre des Escales aussi. Merci à Médiaté Télé, François Manger en régie. Et on se revoit peut-être dans une autre diffusion live. On est jusqu'au 26 pour faire des lives. Il y a peut-être d'autres spectacles qui pourraient mériter des podcasts. Mais suivez ça sur notre page Appropriation culturelle de podcast et sur la page du Théâtre des Escales. On va vous tenir au courant des prochaines discussions. J'espère qu'il y en aura d'autres. On a eu du fun.
Sinon, il y a nos sorties tous les dimanches.
Oui, exactement. Donc, suivez-nous sur les plateformes, là, Spotify, Balado, Google Podcast, iHeartRadio, nouvellement aussi Amazon Music.
Ouais, ça s'en vient. Ça s'en vient avec
Amazon. T'étais de même avec Jeff Bezos, tu connais, c'est ça l'affaire?
Ah, mais il s'en va, par exemple. C'est moi qui ai dit.
C'est toi qui en place?
Ben, j'aimerais ça. En tout cas, ça réglait notre problème d'argent.
All right. Donc, suivez-nous là-dessus. On est sur Facebook, Instagram et YouTube également. Donc, on sort aussi depuis le début de l'année là, des podcasts en vidéo. Fait que ça vous, si jamais vous êtes télé-RH puis ça vous prend de l'image qui bouge, ben ouais. Moi, mettons, là, ben c'est là.
Puis si vous aimez mieux pas nous voir, ben ça se peut aussi. Ben on est toujours là, on a dit.
Plus TDA que TDRH. Mais ça, c'est un autre débat.
Bravo, man.
On en reparlera dans un autre podcast. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et à bientôt.
Bonne soirée.